Ah, ce bon vieux George Orwell qu'on nous cite, qu'on nous récite, qu'on nous sert à toutes les sauces. Sortez 1984 de votre chapeau et expliquez-nous par exemple que c'est ce vers quoi on va si par malheur on cédait à tout et n'importe quoi. Tiens, l'écriture inclusive, vous savez l'écriture inclusive, cette façon d'écrire pour assurer une égalité des représentations entre les hommes et les femmes. Préférer droit humain à droit de l'homme par exemple. Accorder les métiers en fonction du genre. Ne pas dire systématiquement ceux, mais celles et ceux. Ou encore, blasphème, inclus à l'écrit les deux sexes quand on parle d'un groupe de personnes, écrivain.e.s au lieu d'écrivain au masculin. Bref, faire en sorte que dans la langue, soudain, le masculin ne l'emporte plus sur le féminin. Et ben ça, pour un bon nombre d'intellectuels, c'est Orwell, c'est 1984, c'est cette novlangue qui contrôle et qui façonne les consciences. Cette novlangue qui, chez Orwell, il faut quand même le rappeler, est une langue qui réduit, qui restreint, qui limite, ce qui est exactement le contraire de l'écriture inclusive, qui augmente, qui ouvre, qui déplie. Alors, à tous ces lettrés de papier qui n'ont manifestement pas relu 1984, je conseille de faire d'une pierre deux coups et de se pencher, tiens, sur la variation au féminin qu'en propose Margaret Atwood dans La Servante Écarlate. On y apprend notamment ce que c'est qu'un monde qui exclut le féminin. Parce qu'on peut lui reprocher plein de choses à cette écriture inclusive qui a eu le malheur d'apparaître récemment dans un manuel scolaire, mais pas le totalitarisme, la dystopie ou je ne sais quel cauchemar littéraire.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Que dit mon invité d'aujourd'hui de la place du féminin dans notre société, dans notre grammaire précisément? Elle qui n'a jamais cessé de rappeler l'emprise, plus ou moins consciente, assumée ou niée, de la domination masculine sur notre système de pensée, sur nos représentations, sur nos valeurs. Elle vient de publier Au gré des jours, la suite du sel de la vie, où elle capte avec finesse et précision la beauté d'instants suspendus. Bonjour Françoise Héritier.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Avant toute chose, comment on lutte contre l'effacement du féminin dans nos sociétés aujourd'hui?
Comment on lutte? Mais comme on a toujours lutté, c'est-à-dire en inventant des actions positives de toute nature, que ça soit des manifestations dans la rue. Après tout, j'ai une jeune amie qui m'a écrit récemment en me disant « On peut quand même pas descendre dans la rue en criant « Abat la valence différentielle des sexes ». C'est que la façon dont moi, dans mon langage, je parle, disons, ce que vous appelez la domination masculine. Elle dit « On peut quand même pas descendre dans la rue en criant ça ». Ben, si, on pourrait descendre dans la rue, si on était mobilisé de façon conséquente, on pourrait réunir des millions de femmes dans la rue pour crier cela. Ça ne se fait pas parce qu'il est très difficile de rassembler sur une idée des individus qui ont l'habitude de se taire. Alors, on peut le faire par d'autres moyens, ces actions. Alors, ça peut être des actions positives sur le corps, comme la lutte pour le droit à l'avortement. Et ça peut être aussi des actions sur le langage. Je crois qu'il y a des points qui vous intéressent.
Précisément, une écriture inclusive, Françoise Héritier, une écriture où le masculin ne l'emporte plus sur le féminin. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? On n'écrirait plus écrivain, mais écrivain.e.
Ça me paraît, comment vous expliquer, un jeu où on est perdante dès le départ. Parce qu'on n'écrit pas gagnante, point, gagnant. On écrit de toute façon, ce qui vient en premier, c'est quand même le masculin.
Est-ce que vous diriez que la langue, du coup, est patriarcale, est machiste, essentiellement?
Je dirais qu'il y a dans toutes les langues et dans tous les systèmes de parenté, déjà, une orientation qui fait primer le masculin sur le féminin.
La question, en fait, qui se pose, c'est peut-être aussi de faire de l'école un lieu où ne se perpétuent pas les inégalités hommes-femmes. L'école, quel lieu est-ce que c'est pour vous?
C'est le lieu de grandissement de soi, vraiment. L'école de la République a fait énormément. On a tendance actuellement à l'oublier, mais l'école de Jules Ferry a fait sortir nos campagnes de la misère.
Vous avez vu son évolution aussi. À l'époque, qu'est-ce qu'on enseignait aux jeunes filles? Vous vous souvenez?
Ben, de l'époque de Jules Ferry, non.
Mais de la vôtre.
Mais de la mienne, oui, bien sûr. Ben, ce qu'on enseignait aux jeunes filles, c'était théoriquement la même chose qu'aux garçons, mais pas tout à fait, parce que j'ai souvenir que dans mon lycée, c'était un lycée de filles d'abord.
Et dans l'enseignement ?
Et dans l'enseignement, eh bien, quand j'étais à la Sorbonne, j'ai voulu faire une licence de géographie et plusieurs licences d'histoire, et j'en ai été empêchée parce qu'on considérait que la licence de géographie toute seule était trop difficile pour nos faibles cerveaux.
Quel genre d'élève est-ce que vous étiez, vous ?
J'étais une bonne élève, ce qu'on aimait à l'époque, c'est-à-dire une petite fille tranquille. Et qui ne protestait pas, qui faisait ce qu'on lui disait de faire.
Dans ce livre, Au gré des jours, justement, vous dites regretter de ne pas avoir été plus insoumise.
Ah oui, et oui, parce que j'ai manifesté mon insoumission, mais quand j'ai été majeure. Or, la majorité, c'était à 21 ans.
Contre quoi est-ce que vous regrettez de ne pas vous être révoltée, Françoise Héritier ?
Mais contre des diktats familiaux qui était classique pour conserver la pureté virginale des filles. C'est-à-dire, on surveillait mes horaires, on surveillait et ceux de ma sœur, on n'avait pas le droit de faire du vélo, on n'avait pas le droit d'aller nager, on n'avait pas le droit de faire...
Vous aussi, vous avez eu ce sentiment que le système a tout fait pour vous effacer, vous inciter à ne pas vous mettre en avant?
Oui, la première chose que le système, comme vous dites, fait, c'est de nous inculquer, à nous, filles, enfin, je parle de mon temps, peut-être qu'on se reconnaîtra encore maintenant, ce qui serait tout à fait désastreux, mais tant pis, c'est de nous inculquer l'idée que nous sommes insuffisantes, inférieures, et que quoi que nous fassions, nous n'arriverons jamais à égaler le modèle des hommes, libres, heureux, plaisantants, etc., qu'il nous fallait rester derrière, enfin, un peu à l'affût de quelques miettes qui pouvaient tomber de la table des grands.
Sauf que vous êtes un parfait contre-exemple. Par quel hasard en êtes-vous venu à occuper le rôle qui a été le vôtre ?
Celui d'anthropologue ? Parce que je suis insoumise, justement.
Par l'insoumission. Celui d'intellectuel, celui de professeur au Collège de France aussi, c'est
oui,
quelque chose.
Ça demande de l'insoumission. D'abord, je suis partie de chez moi, dès que j'ai eu 21 ans. Ça a été un clash familial terrible. Ensuite, je suis partie en Afrique à 22 ans. Et là aussi, ça a été un clash, un nouveau clash familial terrible. Je me suis mariée sur le terrain avec un autre ethnologue sans mes parents, et là aussi ça a été un clash. Vous savez, je crois que je n'ai fait que des clashs.
Vous êtes la reine des clashs, ouais.
Quand j'y repense.
Malgré tout, vous l'expliquez dans Au gré des jours, vous avez toujours eu le sentiment d'être une usurpatrice. Ce sont les mots que vous utilisez. Et je me demande en quoi ce sentiment d'usurpation est plus partagé par les femmes que par les hommes.
Et justement, parce qu'on nous l'apprend. On nous apprend à être des petites filles gentilles, effacées, serviables. Et bon, et puis, quand j'allais en vacances chez mes grands-mères, mon frère avait le droit de sortir faire du vélo, et pas nous. Il faisait pas son lit, il fallait faire le lit de notre frère. Il débarrassait pas la table, ne mettait pas le couvert, il ne savait rien faire. Et ça aboutit à des situations cocasses adultes, comme celle d'un homme dans ma vie. Mon mari, qui envoyait un jour par un ami, alors qu'on prenait le café sur la terrasse de la maison pour chercher une petite cuillère qui manquait, entre dans la cuisine et dit en tournoyant sur lui-même « Mais où peuvent bien être les petites cuillères ?» Parce qu'il ne le sait pas, tout simplement.
Ça vous a fait rire, honnêtement ?
Oui, ça fait rire, mais quand on est de bonne humeur.
On en revient toujours à cette même question que l'on posait au début de l'émission. Comment faire pour que les filles ne se considèrent plus comme, je vous cite, des sous-produits à côté de l'humanité accomplie que représenteraient les hommes. C'est très fort cette phrase quand même. Oui. Des sous-produits, c'est ce que vous dites.
Oui. D'abord parce que cela vous est dit explicitement. Enfin, encore une fois, peut-être les choses ont changé. Mais la manière de dire à une petite fille « Ne fais pas ça, tu n'en es pas capable », par exemple, de monter à une échelle. Ou, non, monter à une échelle, c'est autre chose. « Ne fais pas ça parce que tu vas montrer tes jambes. » Bon. Vous voyez ?
Oui.
D'abord, vous vous demandez pourquoi vous ne pourriez pas montrer vos jambes si vous avez 6, 7 ou 8 ans. Mais après, c'est une chose que vous intériorisez et vous pensez toujours, quand vous vous asseyez, à serrer les jambes. Alors que, un homme, d'ailleurs, j'ai vu que c'était quelque chose maintenant, on fait la chasse au manspreading, non ?
Ah ben le manspreading, Françoise Héritier, effectivement. Comment ? C'est cette façon d'écarter les jambes, oui, un peu trop quand on est un homme dans les transports
c'est
en commun, par
exemple. Exactement. Eh ben, un homme écarte naturellement les jambes, alors que les filles, on leur a toujours appris à les serrer. Bon, et puis elles continuent à les serrer, et même quand il y a quelqu'un d'un peu gros qui fait du manspreading, elles se mettent de côté pour pas trop le gêner.
L'insoumission, est-ce que ça s'apprend ?
Elle s'enseigne de pair à pair. c'est-à-dire d'égal à égal. Dans la même classe d'âge, vous pouvez avoir choisir quelqu'un qui deviendra votre maître en insoumission. Je dis maître au masculin, mais ça pourrait être maîtresse, sauf que ça ferait un drôle d'effet. Enfin, votre conducteur en insoumission.
Vous en avez eu, vous, des conducteurs ou des conductrices en insoumission?
En insoumission, j'en ai eu une. Mais qu'à l'époque, je ne voyais pas comme une conductrice en insoumission, parce que je m'en suis rendu compte qu'après coup, elle avait eu cette utilité-là. C'était la petite garce dont je parle dans le livre. Celle qui, en classe de 6e ou de 7e, avait plein de secrets sur le corps, sur les règles, etc. Et qui bravait un peu les professeurs. Alors oui, celle-là, oui. J'ai regardé avec méfiance, mais elle enseignait la soumission.
Celle qui est un peu trop insoumise. Dans cette émission, vous la connaissez sans doute, c'est la culture et son actualité beaucoup trop sûre d'elle. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, lundi 23 octobre?
Je crois que la philosophie se dissout et se dissipe dans toute une série d'activités de pensée.
Esprit critique, es-tu là? C'est le sous-titre, Françoise, de la 9e édition de la Semaine de la Pop Philosophie qui débute aujourd'hui à Marseille. Invité à réfléchir sur la notion de croyance, une vingtaine d'agitateurs d'idées, dont Robert Maggiori ou Philippe Nassif, sont attendus pour parler de spiritualité, mais aussi de foot et de chansons populaires. Ça va se chauffer les méninges sur la Canebière. Coup de bol pour Justin, la pop star américaine Justin Timberlake a été choisie par la Ligue de foot américain pour assurer le prestigieux concert à la mi-temps du Super Bowl, suivi par plus de 100 millions de téléspectateurs. C'est la troisième fois que le chanteur participe à l'événement. La dernière fois en 2004, il avait fait scandale en révélant par accident le sein de sa partenaire de danse Janet Jackson. Sexy back.
Enchanté, bien quoi?
Bon alors comme convenu, on va te suivre 7 jours sur 7, 24 sur 24, et tu vas nous montrer tout ton business, comment ça marche.
Caïd règne sur Cognac, petit film autoproduit. Caïd de Ange Basterga et Nicolas Lopez a reçu hier le prix du meilleur long métrage au Festival Polar de Cognac. Plongé dans le business d'un jeune dealer filmé par une équipe de journalistes, le thriller a été tourné avec 70 000 euros en 4 jours seulement. C'est impressionnant.
Winter is coming.
Winter is here. Même pour célébrer les 10 ans de l'art contemporain au château de Versailles, l'expo Voyage d'hiver a ouvert ses portes hier dans les jardins dessinés par Le Nôtre. À travers un parcours dans les bosquets du jardin que se sont réappropriés 17 artistes, dont la française Céline Minard. C'est une balade extravagante et royale que propose cet anniversaire arty. On dit oui. Françoise Héritier, invitée exceptionnelle de Boomerang ce matin pour Au gré des jours, la suite du sel de la vie, où vous aviez consigné ce que vous appelez ces imperceptibles petits riens qui donnent du goût à la vie. Ce livre, il vous a valu des centaines et des centaines de lettres de lecteurs, de lectrices. Vous dites que c'est pour ces lecteurs et ces lectrices que vous écrivez.
Oui, enfin, des centaines, j'exagère peut-être un peu, mais enfin, un petit nombre quand même. Mais ce qui m'a surtout plu, c'était les lettres d'institutrices qui m'envoyaient des travaux d'élèves où elles leur faisaient plancher sur le même thème. Quel est le sel de votre vie à vous? Eh bien, je vous assure, c'était très, très, très émouvant.
Vous vous souvenez d'un exemple qui vous a particulièrement ému?
Ah ben oui, par exemple, être réveillée à 5h du matin par mon papa et m'habiller en silence pour aller à la pêche avec lui.
À votre avis, qu'est-ce qui a provoqué un tel engouement dans ce livre, Le sel de la vie? Qu'est-ce que vous avez eu l'impression d'apporter?
D'abord, un peu de fraîcheur, je suppose. Ensuite, je crois que j'ai déverrouillé l'accès à des perceptions et à des sensations que tout le monde peut connaître, mais qu'il a tendance à ne pas vouloir voir ni sentir. Et donc, j'ai redonné du sens et de la noblesse à tous ces petits faits du quotidien qui sont sans importance, mais dont je considère que sans eux, nous n'existerions pas. Je veux dire, notre existence, c'est pas un absolu, c'est totalement une solitude dressée contre le ciel, c'est la constitution de renforcer jour après jour de toutes ces perceptions que nous avons eues dès que nous avons ouvert les yeux sur le monde. Et c'est cet ensemble-là qui fait notre individualité.
C'est très fort, je trouve, de lire un livre et d'en arriver à répondre à l'auteur, à lui écrire une lettre. Je me suis demandé, vous, Françoise Héritier, est-ce qu'il existe un auteur dont le livre vous est inspiré au point de vouloir le contacter, au point de vouloir lui écrire?
Mais vous posez là une question qui me plaît, parce que généralement, même si des livres me plaisent, il me viendrait absolument pas à l'idée d'écrire à leur hauteur.
Pourquoi diable ?
Je ne sais pas. Peut-être là encore, ce sentiment d'immanence, l'idée que ils sont inatteignables, qu'on ne peut pas les approcher.
Me vient une question assez évidente. De qui êtes-vous fan, Françoise Héritier ?
De qui je suis fan ? C'est pas un mot que j'utilise tellement, mais de qui j'étais une fervente admiratrice, de Claude Lévi-Strauss, par exemple.
Dont vous avez pris la chaire au Collège de France ?
Dont j'ai pris la suite, oui. Mais c'est pas pour cette raison, parce que c'est vraiment parce que c'était un homme de parole, d'écrit, d'inventivité.
Ça a dû être drôlement impressionnant, du coup, de reprendre sa place. Non ?
Oui.
Moi, je pensais que vous alliez me dire Robert Redford ou Robert Mitchum.
Moi, j'aime Robert Mitchum. Ah oui, j'aime Robert Mitchum. Mais c'est vrai que je l'aime, et depuis toujours. Enfin, maintenant, je pense qu'il est mort, ça fait longtemps. Mais Robert Mitchum, je ne sais pas. Il y avait quelque chose dans sa façon de se tenir, simplement. Il a une puissance dans les épaules, une manière de se tenir. Je ne sais pas si vous visualisez le bonhomme.
Ah bah si.
Vous voyez, cette espèce de façon de tenir la poitrine un peu en avant, comme ça, les épaules en arrière. Il a un port absolument extraordinaire.
C'est une impression de ma part, mais j'ai l'impression que vous ne citez pas beaucoup de femmes dans ce livre Au gré des jours.
C'est possible. Je cite des femmes, notamment sur le terrain. Je cite toutes mes amies.
Alors les femmes qui ont compté dans votre vie, qui sont-elles, les inspiratrices, les modèles ?
L'une, c'est ma grand-mère maternelle, à cause de sa douceur et puis de sa façon qu'elle avait de manier le verbe, c'est-à-dire qu'elle parlait français, bien sûr, mais avec aussi du parler bourguignon, qui était toujours extrêmement savoureux. Et elle m'a appris à aimer la belle parole.
Certaines amies, je me disais, aussi.
Alors, des amies, oui. Alors, j'ai des amies, comme dirait l'autre, de 30 ans, et même plus.
Pourquoi je vous parle d'amitié ? Parce que j'ai l'impression que vous vouez un culte à l'amitié.
Oui.
Qu'est-ce que c'est l'amitié pour vous ?
L'amitié, c'est le terreau indispensable pour nous faire vivre.
Vous parlez d'un point de vue intime, personnel ou anthropologique, Françoise Héritier ?
D'un point de vue intime et personnel d'abord, mais on pourrait en parler d'un point de vue anthropologique. Et parce qu'il y a, notamment dans certaines sociétés africaines, par exemple, des systèmes d'amitié par classe d'âge, par exemple, des classes d'âge de 3 ans, où on doit faire ses amitiés et où on trouve ses partenaires pour jouer à la lutte, enfin pour faire toute une série d'activités sociales, et on appelle ça l'amitié. Mais non, l'amitié est quelque chose de très, très connu, codifié, encouragé, et trahir l'amitié peut être parfois plus grave que trahir les liens conjugaux.
Ça vous est arrivé ?
De trahir l'amitié ? Non, je ne crois pas.
Alors je vous propose, en ami, d'accepter mon invitation et de venir vous promener avec moi, mais aussi avec Mireille, sur ce petit chemin que vous connaissez bien, puisque c'est vous qui l'avez choisi. Vous êtes sur France Inter, avec Françoise Héritier. Vous écoutez Boomerang.
Ce petit chemin qui sent la noisette, oh, ce petit chemin n'a ni queue ni tête. On le voit qui fait 3 petits tours dans le bois, puis il part au hasard en flânant comme un lézard. C'est le rendez-vous de tous les insectes, les oiseaux pour nous y donnent leur fête. Les lapins nous invitent, souris-moi, courons vite, ne crains rien, prends ma main dans ce petit chemin, ce petit chemin qui sent la noisette, oh, ce petit chemin m'a tourné la tête. T'as posé 3 baisers sur mes cheveux frisés, et puis sur ma figure toute barbouillée de mûres, pour nous observer des milliers de bêtes s'étaient installées par-dessus nos têtes. Mais un lièvre au passage nous a dit, soyez sage, ne crains rien, prends ma main dans ce petit chemin.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Elle est, que voulez-vous, Insaisissable, c'est une grande dame, assise en face de moi, non sans une certaine majesté quelque part, entre la reine Victoria, Marguerite Duras et Suzy Morgenstern, la bouille ronde, le regard pétillant, le cheveu noir, quoique un peu éclairci, et ses lunettes cerclées de marron qui vous fixent derrière ses yeux noirs. Elle porte un châle au-dessus de sa chemise. Françoise Héritier, invitée de Boomerang, ce matin, pour Au gré des jours, un livre dans lequel vous revenez, Françoise, mine de rien, sur votre parcours, sur la façon dont vous vous êtes construite en tant que femme et aussi en tant qu'intellectuelle. Vous vous étonnez d'être parvenue à vous former intellectuellement compte tenu de votre milieu d'origine. Quel est-il ce milieu ? D'où est-ce que vous venez ?
Je viens d'abord de la paysannerie, la génération de mes grands-parents. Mes deux parents étaient des fonctionnaires de l'État. Ma mère travaillait au PTT et mon père à la SNCF.
Mais alors comment s'est faite votre éducation intellectuelle ?
Alors, ils avaient ce désir que leurs enfants aille à l'université. Et pour cela, mes parents ont fait absolument le nécessaire. Mais ils n'avaient ni... mon père avait son baccalauréat, ma mère son brevet d'études supérieures. Et c'était beaucoup, vous savez, à l'époque. Et ils avaient à la fois de l'ambition pour nous, mais pas tellement d'ambition intellectuelle pour eux. C'est-à-dire qu'on ne lisait pas chez moi. Mon père avait une bibliothèque de romans de l'après-guerre, juste l'après-guerre de 14, des auteurs totalement oubliés maintenant, comme Henri Bordeaux. C'était la littérature à l'eau de rose.
Mais comment avez-vous découvert alors Les Forestiers de Thomas Hardy ou Jenner de Charlotte Brontë ?
Plus tard. Quand j'ai commencé à m'émanciper, alors Les Forestiers, ça a été vraiment la grande révélation. Mais avant, c'était Jenner.
Mais quelle révélation est-ce qu'ils ont été ces romans ?
Oh. C'était double. C'était la révélation d'une belle écriture, parce que c'était des belles traductions, d'ailleurs. Et par ailleurs, des situations rares, que je ne pensais pas pouvoir rencontrer dans la vie, mais avec des sentiments que je pouvais comprendre.
C'est passionnant, parce que ce que vous racontez, à demi-mot, c'est un apprentissage émotionnel, en fait.
Oui, mais je le dis bien, je n'ai pas fait d'apprentissage intellectuel, j'ai fait un apprentissage émotionnel.
Mais du coup, vous donnez du crédit, Françoise Héritier, presque malgré vous, à ceux qui disent, de façon très simpliste, que les femmes sont du côté de l'émotion et les hommes du côté de l'intellect, non ?
Pas vraiment, parce que j'ai fait les preuves par ailleurs que quand je me mettais à fonctionner, c'était du côté de l'intellect.
Faites attention à l'usage de ce verbe, fonctionner. Alors en quoi est-ce que cet apprentissage par la littérature, par l'émotion, a-t-il eu une influence sur votre façon de mener vos recherches d'anthropologue ? Parce que c'est ça qui est intéressant. En quoi cette émotion vous a permis d'avoir une approche différente de la recherche et une autre vision du monde, peut-être ?
Là aussi, c'est une question que je me pose et à laquelle il est difficile de répondre, car je ne pourrai jamais me mettre dans la peau d'un ethnologue mâle. Bon. Mais je peux voir des différences dans la sensibilité à certaines situations. Et je me souviens, c'était une année de grande famine en Afrique de l'Ouest. Et donc, on essayait d'envoyer de l'argent dans certains villages qu'on connaissait, pour qu'ils puissent acheter du mil, du riz, Et on faisait des collectes, et Michel Izard était allé demander à Lévi-Strauss sa participation. Et Lévi-Strauss avait refusé, en lui disant, l'important n'est pas de sauver ce mot-ci, cet homme-là ou cette femme-là, l'important c'est de décrire leur culture. Alors on avait pris ça, vraiment, on avait pris ça très très mal. Je veux dire, il avait sans doute raison de dire que la société valait plus que l'individu. C'est une discussion qui est toujours en question. Est-ce qu'il faut faire primer la société ou l'individu ? Mais lui, il faisait primer la société. L'individu n'a pas d'importance, c'est la société qui compte. Mais là, on était dans une extrémité quand même, parce qu'il y avait mort d'homme au bout.
Je me disais peut-être que cette... apprentissage de l'émotion, ça peut être favoriser aussi chez vous une aptitude à l'évasion, un refus de vous enfermer dans des idées reçues, un refus de vous fixer, en fait, et de vous figer, Françoise Héritier.
Oui, sauf que il y a certaines idées que j'ai en tête et je n'en démords pas, je les garderai toujours.
Vous avez des idées fixes, vous ?
Ah ben oui, la démocratie vaut mieux que le totalitarisme, par exemple. C'est une bonne idée fixe, non ?
Je propose
de partir alors sur une autre idée fixe.
Mesdames, mesdemoiselles, voulez-vous devenir reine d'un jour ?
Oui !
Reine d'un jour, te voilà parée de tes plus beaux atours.
Jean-Noël, producteur de l'émission Reine d'un jour, Françoise Héritier sur Radio Luxembourg. C'est ce dont vous avez choisi de nous parler ce matin. Cette émission diffusée entre 1948 et 1954, vous l'écoutiez avec votre grand-mère, dont vous nous parliez tout à l'heure.
Oui, c'était son émission favorite et son, je sais pas comment, son présentateur favori. Jean-Noël était très très connu, vous savez, incroyablement célèbre. Et il faisait donc cette émission. Et elle l'aurait raté pour rien au monde. Et alors, c'est émouvant quand on y pense. Parce que c'était des femmes dont je ne me souviens plus comment elles étaient choisies, mais à qui on donnait des cadeaux. Et ces cadeaux, c'était une cuisinière, une machine à laver, une cocotte minute, enfin des choses de genre. Et elles pleuraient d'émotion devant des cadeaux qui étaient très chers.
Et vous rêviez du coup, vous, d'être reine d'un jour ?
Oh non, pas du tout. Et je pense pas que ma grand-mère rêvait de ça non plus. Simplement, elle aimait partager l'émotion des autres.
C'est intéressant, parce qu'en évoquant cette émission, Reine d'un jour, en parlant de votre grand-mère, vous nous parlez aussi de quelque chose qui s'appelle l'âge. Qu'est-ce que c'est vieillir pour vous ? Et je me serais jamais permis de vous poser cette question si vous ne la posiez pas déjà dans le livre.
Oui. Vieillir, pour moi, n'est pas une chose nécessairement agréable à cause des maux physiques que j'ai eus et qui m'obligent maintenant à me déplacer à minima puisque je suis en fauteuil roulant. Mais vieillir autrement ne me gêne pas si je ne me regarde pas dans une glace. Mais je me regarde très très peu. Parce que je me sens toujours comme la jeune fille que j'ai été.
Vieillir, c'est oublier ?
Non, ce n'est pas oublié. Bien sûr qu'on oublie des choses, mais je ne sais pas lesquelles d'ailleurs, puisque je les ai oubliées. mais il en reste tellement d'autres qu'on peut convoquer à souhait. Et puis il reste toujours le pouvoir de l'imagination. Je crois que j'ai l'imagination assez fertile. Ça, c'est une des choses qui me... Ça me convient parce que je peux rêver pendant des heures.
C'est aussi vieillir, regarder avec l'expérience de son vécu, avec une certaine sagesse, son époque, notre époque. C'est quelle époque pour vous ?
Je ne regarde pas notre époque avec une certaine sagesse, et je la regarde avec plutôt une... Comment vous dire ? Une peur, une forme de... J'allais dire de rancœur, mais ce n'est pas de rancœur, c'est plutôt de remords. De voir que nous nous retrouvons piégés actuellement dans un monde si complexe, si difficile... alors qu'on aurait peut-être pu prendre d'autres voies.
Vous pensez à quoi ?
À d'autres moments. Ben, je ne sais pas. Par exemple, tous les conflits du monde arabe, je ne suis pas sûre que des politiques pétrolières de différents États n'aient pas été importantes dans leur mise en place. Vous voyez, il est possible que nous ayons dans l'avenir de très très gros problèmes aussi, parce que nous n'avons pas mis en place une économie de l'eau qui permettra aux générations suivantes de pouvoir se la partager équitablement.
Il y a des jours où vous perdez espoir ?
Il y a des jours où je ne perds pas espoir, mais je me dis vraiment que l'humanité, c'est l'espèce la plus stupide qu'il y ait au monde, et non pas la plus intelligente. Parce que c'est nous qui tuons, nous sommes la seule espèce où les mâles tuent leurs femelles. Vous saviez ça ? Les mâles se tuent entre eux, ils peuvent tuer les bébés, les lions par exemple. C'est très 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 rare que des mâles tuent une femelle. Chez nous, c'est la règle.
Alors pour vivre avec ça, Françoise Héritier, qu'est-ce qu'on fait ?
Je dirais on s'accommode.
Merci infiniment, Françoise, d'être venue faire un tour dans Boomerang. Quel honneur, vraiment. Au gré des jours, votre nouveau livre est publié chez Odile Jacob. C'est bon comme du bon pain, bon comme le podcast aussi de Boomerang, auquel, je le sais, vous êtes déjà abonnée, Françoise. Et je vous en remercie. Tout de suite, les médias. Sonia De Villers, juste après ça.
Aujourd'hui... France Inter fête les 60 ans de Stax Records.
Making Love, Johnny Taylor sur France Inter, et c'est l'heure de l'instant M, l'instant média avec Sonia.
Elle est géniale cette chanson.
Ah bah attends, elle est super.
À demain, Augustin.
À demain.